Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Mais oui, c'est Human avec vous une nouvelle fois, avec un nouveau thème dans notre promenade régulière, hebdomadaire, autour de l'humanitaire et autour de l'écologie, avec aujourd'hui une thématique bien particulière autour des droits de l'homme en danger et de la défense des défenseurs des droits de l'homme. Ceux qui prennent des risques ici et là, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe ou en Asie, partout dans le monde, eh bien, comment nos organisations les défendent-elles? Par quels moyens s'assure-t-on de cette liberté fondamentale de la critique et de l'information qui fait vraiment partie de l'essentiel de nos démocraties? Avec nous, pour en débattre aujourd'hui, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, nous avons autour de la table Vicar Batundi Angui. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Vicar et merci d'être avec nous.
Merci beaucoup.
Voilà, Vicar, vous êtes un pygmée et non content d'être un pygmée, vous êtes aussi un responsable et le coordinateur national du foyer de développement pour l'autopromotion des pygmées et des indigènes défavorisés.
Oui, peut-être un petit correctif. Je ne suis pas pygmée, mais je suis défenseur des droits des pygmées.
Sans être pygmée vous-même?
Ouais.
Ah bon?
Je suis défenseur des droits de l'homme, oui. Mais focalisé spécialement sur les droits des peuples autochtones pygmées à travers l'organisation Foyer de développement pour l'autopromotion des pygmées et indigènes défavorisés, en sigle FEDAPID.
D'accord. On peut être défenseur de pygmées sans être pygmée.
Bien sûr, c'est comme des personnes non handicapées qui défendent les droits des personnes vivant avec handicap.
Est-ce que vous avez l'air de dire que les pygmées sont des handicapés?
Non. les pygmées ne sont pas des handicapés, mais il faut partir des personnes vulnérables.
Bien sûr.
Des personnes, des groupes marginalisés.
Voilà, et avec nous également Régine Perraudin, vous faites partie du Secours Populaire Français. Et alors expliquez-nous de quelle manière le Secours Populaire Français travaille avec Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, dont on parlera dans un instant, sur cette question de la défense des défenseurs. Bonjour d'abord.
Bonjour à toutes et tous. Effectivement, le Secours Populaire travaille depuis son origine à la défense des droits de l'homme. Et c'est vrai dans l'histoire et c'est dans les gènes du Secours Populaire que de défendre les droits de l'homme et d'aider chacun à se tenir debout et à être respecté. Et donc on travaille avec Agir Ensemble depuis plusieurs années, en participant financièrement notamment à toutes les actions qui sont menées sur le terrain. Par ailleurs, on a une relation privilégiée dans le cadre de la République démocratique du Congo, puisqu'on a un partenariat avec VIPCAR et le FDAPID. Je n'emploierai que l'acronyme parce que c'est un peu long.
L'autopromotion des pygmées.
Voilà, effectivement, pour la défense du peuple autochtone pygmée. Donc, on travaille avec VIPCAR de façon rapprochée depuis 4 années déjà. Donc, ça crée des liens encore un peu plus resserrés avec AEDH sur ce terrain-là.
Voilà. Et enfin, la représentante précisément d'AEDH, d'Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, Magali Bichard, bonjour.
Bonjour.
Et donc vous, Magali, que faites-vous donc chez Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme et qu'est-ce qu'est ce projet de fonds d'urgence dont vous avez une part de la responsabilité?
Déjà, merci pour l'invitation. Donc, je suis chargée de projet et partenariat au sein d'Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, et donc AEDH en acronyme, et qui a donc un fonds d'urgence qui a été lancé il y a 20 ans, donc on fête les 20 ans cette année, et qui est en fait un mécanisme de protection visant à apporter une assistance matérielle aux défenseurs des droits humains qui sont menacés en raison de leurs activités. Et donc cette assistance est multiple et elle est adaptée à chaque situation. Et effectivement, on a aussi un partenariat particulier avec VIPCAR en République démocratique du Congo, puisque ce fonds d'urgence qui a donc été lancé il y a 20 ans a produit un projet plus particulier qui est donc le projet RISC, qui est donc renforcer les initiatives pour secourir les défenseurs dans les Kivus, qui est un projet qui est spécifiquement dans les provinces du Nord et Sud Kivu, donc qui sont deux provinces à l'est de la RDC.
Kivu.
Kivu, c'est les Kivu, K-I-V-U, c'est le nom de deux provinces,
d'accord,
en fait, le Nord et le Sud Kivu.
D'accord.
Et donc, dans le cadre de ce programme, qui est une déclinaison du fonds d'urgence, nous travaillons avec trois partenaires de terrain, un au Nord Kivu, dont Vicar est le coordinateur, et deux au Sud Kivu. Et donc, on permet aux défenseurs des droits qui sont menacés dans ces provinces d'avoir une assistance matérielle, donc qui peut être une assistance médicale, une assistance judiciaire, une relocalisation, qui est donc le fait de les faire sortir de la zone à risque, le temps de mettre en place des activités de plaidoyer.
Alors, on va reprendre ces quelques termes que vous venez d'évoquer. Mmh. Assistance judiciaire,
oui.
Relocalisation,
oui.
Et
assistance médicale.
Et assistance
ou
médicale.
Ou psychologique.
Bon, assistance médicale ou psychologique, on voit très vite ce que c'est. Assistance judiciaire, on voit à peu près ce que c'est. Il y a des gens qui sont poursuivis devant des tribunaux. Il faut leur trouver un avocat, il faut payer des honoraires, il faut fournir des éléments d'information, il faut réunir des preuves, etc. Qu'est-ce que la relocalisation, par contre ?
Alors, la relocalisation, c'est le fait de...
Et un exemple concret, oui, si vous le voulez bien.
Alors, la relocalisation, c'est le fait de faire sortir un ou une défenseur menacée dans sa région, notamment dans les Kivus, où il y a beaucoup de zones enclavées, de les faire sortir de cette zone dans une zone plus sécurisée, notamment dans des grandes villes, tout en leur fournissant une aide de subsistance, donc pour couvrir les frais d'alimentation, de loyer, de transport local, en mettant le temps de mettre en place en fait des actions de plaidoyer grâce à nos partenaires de terrain pour permettre un retour dans la zone d'origine.
D'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait prendre un cas concret ?
Un cas concret, donc dans le cadre de risques, par exemple dans le Nord Kivu, donc peut-être que Vicar pourra aussi m'appuyer dans cette description. Deux membres d'une organisation de promotion et de lutte contre les discriminations envers les femmes ont été la cible de plusieurs menaces qui venaient de groupes armés illégaux. L'organisation elle-même était la cible de menaces avec des intrusions, avec des filatures, avec beaucoup de violations auprès de plusieurs membres de l'organisation. Début mars, il y a une de ces deux animatrices qui a été victime d'une attaque frontalement. Il y a eu également des membres de sa famille qui a été enlevé et qui a ensuite été relâché avec un message à lui faire passer.
Qu'est-ce qu'on lui reprochait à cette personne-là ?
On lui reprochait en fait le simple fait de travailler dans cette organisation et donc de dénoncer les violations qui sont commises par ces groupes armés illégaux, donc qui sont assez variés, hein, ça va du racket de la population au kidnapping, à la demande de rançon. C'est des seigneurs de guerre qui font beaucoup d'exactions dans ces régions-là et les organisations de la société civile dénoncent ces exactions.
Oui, Vicar, parlez-nous de ce qui se passe. Parlez-nous de cette réalité. Oui. Parlez-nous de ces groupes, parlez-nous de ces raquettes. Parlez-nous de ce qui se passe en donnant des exemples.
Oui, en fait, chez nous, la question des défenseurs des droits de l'homme, comme venait de le souligner...
On est donc en République démocratique du Congo, hein, oui. C'est-à-dire pour parler avec les mots de l'ancien colonisateur, si j'ose dire, et pour situer les choses géographiquement, on est au Congo belge ou au Zaïre. Tout ça, c'est des anciens noms.
Oui,
maintenant, c'est la RDC, la République démocratique du Congo.
Exactement.
Est-ce qu'elle est si démocratique que ça ?
Oui, en tout cas, nous sommes en train de souffler une démocratie jeune, parce qu'elle n'est pas encore rassurante. Mais il y a des avancées là-dessus, parce que vous savez, tel que vous le savez, nous avons connu la première alternance pacifique.
Oui.
Quand bien même.
C'était quand ça, la première alternance de démocratique
oui,
pacifique ?
Oui, c'est à travers les élections de décembre 2018.
2018.
Ouais.
Donc, alternance sans uniquement par le vote.
Non, il y a eu des élections, c'est
des
à travers
élections.
Des élections.
Voilà, oui. Oui. Oui.
Qui,
oui.
Bien sûr, c'était après des manifestations publiques, oui. Après des pressions de la population,
oui.
Qui ont été soutenues par la communauté internationale. Et donc, cette alternance-là, c'est le résultat de beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'acteurs, et au niveau national, au niveau régional et international, qui se sont impliqués pour que nous puissions avoir cette alternance. Donc aujourd'hui, nous avons le cinquième président de la République après l'indépendance du pays. Alors, pour revenir à la question de la situation des défenseurs des droits de l'homme, vous savez, ce sont déjà des acteurs qui contribuent énormément à la promotion d'un état de droit, à la démocratie et à la bonne gouvernance. Et pour, dans leurs activités quotidiennes, c'est souvent des cas de dénonciation, dont les dénonciations passent à travers, par des documentations de violations des droits humains, des manifestations publiques, des publications des rapports, des points de presse, des tribunes d'expression populaire. Donc, c'est plusieurs activités que réalisent les défenseurs des droits de l'homme.
Par exemple, qu'est-ce qu'on va dénoncer?
Oui, il arrive des fois, par exemple, pour le moment, pour la situation actuelle qui se passe dans la ville de Beni, et donc dans le territoire de Beni où il y a des massacres de la population et qui sont déplorés par la société civile. Et donc, tout celui qui dénonce les massacres, les auteurs de ces menaces, de ces massacres, souvent ils sont agressés. C'est la même chose lorsqu'il y a des manifestations.
Ici,
pour...
dans ce cas particulier, pardon de vous interrompre, qui sont les massacreurs?
Oui,
qui agit et pourquoi?
Depuis longtemps, oui. Ça fait plus de 4 ans que les gens sont tués, massacrés dans la région de Beni. Et là, les présumés auteurs, il s'agit de ZADF Nalu, c'est une milice ougandaise. Donc, jusque là, il y a des opérations militaires, mais on n'arrive pas à les neutraliser totalement. Et ce qui nous inquiète présentement, parce qu'il y a de nouvelles attaques pour l'éradication de ces rebelles, mais plus le FARDC progresse dans la brousse, maintenant ces rebelles viennent s'attaquer aux paisibles citoyens dans les grandes villes, dans des communes, et ça nous inquiète parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Et nous, à notre niveau, je viens de voir d'ailleurs ce matin, donc la société civile, nous disons que peut-être il faut changer les commandements. Tous les commandements au niveau des opérations et même au niveau des Kinshasa, les commandements militaires.
De l'armée?
Oui.
Pourquoi? Quel rapport?
Parce que vous savez, la RDC, nous avons connu beaucoup d'opérations, dans le cadre de la réforme et de la justice, mais aussi avec les groupes armés à l'époque de l'ancien régime. Il y avait des mixages, brassages, c'est-à-dire tout ce qui était dans les forces et groupes armés, on les avait pris et les intégrés dans l'armée, d'autres dans la police. Et donc, on ne sait pas vraiment contrôler ces gens-là. Et notre demande, c'est pour qu'on les amène peut-être en dehors de la province, parce qu'il n'y a pas un seul militaire qui peut garder sa colline. Et donc, si
sa
on les amène,
colline.
Ouais, donc
bien
si on les amenait en dehors de Kivu, qui est leur propre province, et puis on amène d'autres militaires en provenance d'autres provinces, oui. Ça peut peut-être impacter sur cette situation.
C'est une vieille règle de toutes les administrations publiques ou militaires,
ouais.
Que de faire que celui qui est du pays ne soit pas nécessairement en poste,
ouais.
Dans son pays,
ouais.
Parce qu'il est soumis inévitablement à d'énormes pressions.
C'est ça.
Et il est personnellement peut-être parfois trop impliqué.
Attaché, peut-être il peut avoir même des complicités.
Voilà.
Voilà.
Donc bien sûr que ce serait une bonne règle. Oh, Voilà, nous sommes dans Human, dans la défense des défenseurs des droits de l'homme avec Vicar Matundi Angui de République démocratique du Congo, avec Magali Bichard d'Agir ensemble pour les droits de l'homme et avec Régine Perraudin du Secours populaire français. Alors je reviens à vous, Vicar Matundi Angui. Peut-être serait-il bon pour nos auditeurs que vous nous rappeliez ce qu'est la République démocratique du Congo, là où elle est. On disait tout à l'heure que c'est un pays qui a été autrefois colonisé par la Belgique. Donc la taille du pays, sa population, ses ressources, quelques grandes idées autour de la RDC, s'il vous plaît.
Oui, merci beaucoup. En fait, la République démocratique du Congo, c'est un pays très grand et nous sommes fiers de sa grandeur.
Combien de fois la France, pour nous donner une idée?
Elle a une superficie de 2 345 410, plus grande, 4 fois plus que la France,
oui.
33 fois plus que le Benelux.
Le Benelux, oui.
80 fois plus que la Belgique, qui est notre pays.
Et 3200 fois plus que Monaco, hein, ça c'est sûr.
Oui. Alors, en termes de... Sur le plan démographique, il n'y a pas vraiment de recensement formel présentement, mais la statistique fait état de 80 millions d'habitants, ou plus même, parce que là, ce sont des estimations. Elle est répartie avec 6 provinces, contrairement à l'année 2017, parce que c'est une nouvelle répartition. Les pays, on a procédé au démembrement de certaines provinces. Et là, nous sommes maintenant à 26, alors qu'auparavant, c'était 21 provinces. Nous sommes un pays, peut-être au monde, qui a des limites avec beaucoup d'autres pays voisins, parce que nous sommes entourés par 9 pays.
Allez-y, épelez-les.
Où il y a le Burundi,
oui.
Il y a le Rwanda,
oui.
Il y a l'Ouganda,
oui.
Il y a le Congo-Brazzaville.
Oui.
Il y a la République centrafricaine,
oui.
Il y a le Soudan, la Tanzanie, la Zambie et l'Angola.
En général, les rapports sont bons avec ces autres pays?
Bon, en tout cas, il y a toujours des couacs, hein, parce
oui.
que tout n'est pas rose.
Bien sûr.
Il se pose un problème, notamment par rapport à l'insécurité oui. qui gangrène oui. surtout la partie est du pays. Ou des fois, si vous lisez beaucoup de rapports, il y a des pays qui sont doigtés, des pays qui s'impliquent dans l'alimentation du conflit à l'Est. Mais sur le plan diplomatique, nous avons des autorités qui se battent pour essayer un peu de maintenir la diplomatie régionale. Parce que vous savez, le Congo, avec sa grandeur, un pays potentiellement riche, nous avons toutes les richesses du monde. C'est peut-être que ça, la source même de la convoitise, parce que tout le monde veut venir vivre au Congo. Tous les pays voisins veulent s'approvisionner au Congo pour développer leur pays. Mais malheureusement, nous, on souhaiterait que les gens cherchent à passer par les grandes portes. C'est-à-dire, vous êtes investisseur, passez par la grande porte et ne pas nous créer des conflits pour piller nos ressources.
Bien sûr.
Et donc, bien voilà sûr. Un peu la
RDC. Donc, 80 millions d'habitants,
nous
26 provinces.
4 langues nationales.
Combien ?
4 langues nationales.
Et combien de langues parlées dans ce grand pays ? À peu près.
Bon, après, pour les dialectes, oui. nous avons plus de 450 dialectes.
450 dialectes. Ouais. Combien d'ethnies, a priori, répertoriées ?
Plus de 250 ethnies.
250 ethnies.
Ouais.
Et alors, pour les amateurs d'art premier, dont je fais partie,
ouais.
Qu'est-ce qu'on trouve comme ethnie particulièrement, je dirais, intéressante du point de vue de la fabrication d'objets votif de statuettes, etc.
Oui, je peux citer les peuples autochtones pygmées comme étant...
Oui, bien sûr.
Par rapport à leur savoir traditionnel.
Oui.
En tout cas, ils ont des potentialités dans la production des œuvres d'art,
oui,
la poterie et consorts, mais actuellement, c'est moins exploité.
Oui.
Et c'est pourquoi nous constatons même, nous sommes en train de déplorer les risques de disparition de la culture des peuples autochtones.
Bien sûr.
Parce que c'est une population dépendante des forêts. Et donc, pour eux, la forêt, c'est la mère nourricière, c'est l'habitat naturel. Mais depuis un temps, ils n'ont plus accès à la forêt et ça complique totalement leur vie parce qu'ils n'ont plus là où aller pratiquer leurs rites, leurs savoirs traditionnels.
Et pourquoi est-ce qu'on ne peut plus aller dans la forêt?
Vous savez, il y a...
À cause de la sécurité?
Plus le monde évolue, plus il y a des problèmes.
Oui.
Parce qu'il y a des grands concessionnaires, par exemple, qui prennent des grands espaces pour l'élevage, pour l'exploitation minière, pour l'exploitation forestière. Et là, c'est sur base des documents qu'ils peuvent obtenir au niveau de Kinshasa, sans qu'il y ait même des consultations
locales
ou des études, des enquêtes de vacances et de terres. Et ça fait assez que ça empêche, en fait, aux communautés de pouvoir imposer des cahiers de charges aux exploitants pour que leurs droits soient pris en compte dans l'exploitation.
Et ce qui fait que les villageois, en quelque sorte, ne peuvent plus utiliser la forêt comme ils l'utilisaient de manière séculaire depuis des siècles, comme ce que vous disiez, c'est-à-dire la mère nourricière, parce que c'est occupé par les exploitants, c'est ça?
Oui, c'est vraiment un défi majeur. Parce qu'auparavant, les peuples autochtones pygmées, par exemple, ils menaient une vie nomade, c'est-à-dire ils pouvaient changer de campement à campement. Et c'était une manière pour eux de préserver le plus longtemps possible la faune et la flore, c'est-à-dire les ressources naturelles. Mais depuis qu'il y a maintenant des grands concessionnaires, depuis qu'il y a des exploitants miniers, des exploitants forestiers, depuis qu'il y a la création des aires protégées, parce que chez nous, il y a des parcs, des patrimoines mondiaux. Et tout ça, ça a rétréci l'espace. Je peux donner ici le cas du territoire de Massissi, qui n'est pas loin de la ville de Goma, où plus de 85% est occupé par des fermiers. Et donc, imaginez-vous, les communautés, les autres membres des communautés, les populations les plus pauvres, ils vont vivre sur quel espace? Ils vont mener les activités agricoles sur quel espace? Et donc, ça fait qu'il y a
vous
vraiment...
Dites, pardon de vous interrompre. Quand vous dites des fermiers qui occupent 85% de l'espace, vous pensez aux grandes exploitations
des
agricoles.
Des concessionnaires. Donc,
des grands concessionnaires.
Des pâturages, des bovins.
Oui, voilà. Qui sont en général des entreprises, qui sont des entreprises locales ou des entreprises internationales?
Non, pas nécessairement. Il y a même des individus. Par exemple, vous là-bas, vous avez plus de 100 hectares vous-même. Et nous avons d'ailleurs un cas comme ça que nous sommes en train de gérer, d'accompagner au niveau de justice. C'est un cas des pygmées de Mukohwa, où ils sont voisés à une concession de plus ou moins 100 hectares selon les documents, les titres dont disposent les messieurs. Et là, les pygmées n'ont que 8 hectares, mais ces mêmes 8 hectares est envié par la même personne qui a plus ou moins 100 hectares. Et donc, on se demande si la terre est devenue l'aliment le plus précieux de la planète ou quoi, où les gens veulent tout s'accaparer et laisser les autres communautés souffrir. Et ça fait partie même des problèmes, des causes même des conflits dans la région. Parce que si vous arrivez au niveau des cours et tribunaux, vous allez constater que plus ou moins 80% des dossiers judiciaires concernent les fonciers. Et là, imaginez-vous maintenant la suite lorsque il y a ce genre de problème dans une province ou dans le pays.
Alors, on va peut-être prendre un exemple concret où Agir Ensemble pour les droits de l'homme et où le secours populaire ont pu intervenir par rapport à cette question foncière, que ce soit d'ailleurs en République démocratique du Congo ou ailleurs. Et je pense en particulier à des problèmes semblables qui peuvent se produire également dans certains pays d'Amérique du Sud.
Exactement.
Oui,
moi,
peut-être.
Je veux bien faire suite à ce que dit
Régine Perraudin, oui.
Effectivement, nous, Secours Populaire, on intervient avec le FDAPID pour la sécurisation foncière. On a un axe sur l'éducation, un axe sur l'autosuffisance alimentaire, mais c'est important que ces pygmées qui n'ont pas de titre de propriété effectif et palpable,
écrit, oui,
écrit, puissent devenir réellement propriétaires de leurs terres où ils pourront s'installer, voire installer une école, un dispensaire, et cultiver de quoi se nourrir, de quoi générer des revenus pour arriver à vivre d'une façon sédentaire, parce qu'ils sont contraints effectivement à la sédentarisation.
Est-ce que vous avez un exemple concret qui illustrerait cette... donc là, on va au-delà d'ailleurs de la défense des défenseurs, puisque la défense des défenseurs consiste en quelque sorte ici à les assurer dans leurs droits fonciers. Mais pourquoi pas ?
Là, on défend directement, effectivement, les habitants des communautés localement. À Kingi, par exemple, on vient d'acheter un terrain. Il n'est vraiment pas très grand.
Quand vous dites « on », qui l'a acheté ?
C'est le FDAPID qui a fait les démarches.
L'association
des
pygmées.
Mais avec le financement du Secours Populaire. Un financement entièrement du Secours Populaire. Et
vous avez avancé l'argent, vous avez donné de l'argent.
On a donné de l'argent.
Pour arriver à acquérir un terrain qui revienne
à la communauté.
À la communauté pygmée.
Tout à fait. C'est la communauté qui sera propriétaire de ce terrain. C'est pas un individu ou le FDAPID, c'est la communauté qui va habiter sur ce terrain. Donc, on a aussi financé la construction de huttes, quelque chose qui est proche de leur habitat traditionnel, mais un peu plus protégé par rapport à la pluie, notamment, pour qu'ils puissent s'installer et vivre à peu près correctement sur ce terrain. Donc, on agit vraiment pour la défense du peuple pygmée, pour qu'ils puissent s'installer et être à peu près en sécurité sur leur terrain et pas être spoliés sans arrêt, chassés de leur territoire.
Et est-ce que vous arrivez, avec les instruments juridiques locaux, à fiabiliser en quelque sorte cette propriété du terrain ? Et est-ce que c'est solide dans la durée et dans le temps ?
Alors, c'est effectivement notre volonté que ce soit, on appelle ça la sécurisation foncière, parce qu'on veut effectivement que ça aille jusqu'au bout et que la propriété soit bien inscrite au cadastre. Alors là, les démarches d'acquisition ont été faites. Peut-être que Vicard, tu peux expliquer comment ça se passe. Et l'étape suivante, c'est de consolider.
D'accord. Oui, Vicard Batundiangi.
Oui, en fait, c'est pour nous... L'État de présenter encore une fois nos remerciements au Secours Populaire Français, à Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme et à vous-même, parce que ça nous permet un peu de brosser les projets que nous réalisons. Et là, pas seulement à Kingi, parce qu'avec l'effort, l'appui du Secours Populaire Français, nous avons acheté 4 terrains en faveur de 4 villages. Mais comme il s'agit de la question de sécurisation, la procédure passe par... Hello processus chez nous. Mais présent, au stade actuel, après l'achat, il y a un acte de vente signé par l'ancien, la personne qui va le terrain. Et l'acte de vente est soutenu par l'acte de reconnaissance coutumière, c'est-à-dire un chef traditionnel qui dit « Je reconnais que ce terrain a été acheté par X en faveur de telle communauté ». Et c'est ce document-là qui nous servira de soubassement pour introduire maintenant les démarches auprès des autorités. Mais à notre niveau, comme nous n'avons pas suffisamment de moyens, et là nous venons en appui au gouvernement congolais, donc nous sommes dans le processus où on doit rencontrer les autorités, notamment le ministre des Affaires foncières, pour lui expliquer la problématique et pour lui montrer la contribution du FDAPID soutenu par ses partenaires, afin que l'autorité puisse s'engager aussi à sécuriser ces terrains. Parce que c'est anormal que un peuple reconnu historiquement comme État premier occupant, qui soit en même temps le premier à manquer de terres. Alors, ce que nous faisons là, donc, c'est le travail de l'État. Mais nous, nous venons en appui au gouvernement. Alors, tout ce qui est sécurisation, parce que chez nous, ça coûte énormément de moyens. Nous n'avons pas ces moyens, et donc, on va mener le plaidoyer auprès des autorités pour qu'ils prennent leurs responsabilités en sécurisant ces terrains à travers les services de l'administration foncière, notamment les cadastres.
Et le droit au coutumier local traditionnel se mêle évidemment à la naissance du droit national soutenu par les autorités de l'État. Voilà, bah écoutez, on va reprendre une pause musicale, toujours avec ce que vous nous avez apporté. Ma foi, face à ces dures réalités, avoir un peu de musique, ça nous fait un peu du bien à la tête aussi. Hein.
Exactement. Ouais.
Vous êtes dans Human sur la défense des défenseurs des droits de l'homme avec voilà un représentant du peuple pygmée, avec Agir ensemble pour les droits de l'homme et avec le Secours populaire français. Alors Magali Richard pour rebondir sur ce que disait à l'instant notre ami Vicard avec les problèmes fonciers en Afrique, on trouve des choses assez semblables finalement, assez loin de là. De l'autre côté de l'océan Atlantique, racontez-nous par exemple l'histoire de Henrique et de quelle manière vous l'avez aidé.
Oui, donc effectivement, comme je l'ai dit, le fonds d'urgence d'Agir ensemble pour les droits de l'homme travaille un peu partout dans le monde et notamment en Colombie. Et récemment, nous avons eu une demande qui émanait en fait d'un leader communautaire du peuple afro-colombien qui milite pour le droit foncier de sa communauté, effectivement avec un peu les mêmes problématiques que ce qui a été exposé par rapport à la RDC. Donc dans la région du Chocó, qui est une région en Colombie assez semblable au Kivu en fait, avec beaucoup de milices paramilitaires. Donc Henrique, qui est ce leader communautaire de la communauté afro-colombienne, se bat pour la reconnaissance des droits à sa communauté d'exploiter leurs terres, parce que dans les années 1990, de grands entrepreneurs ont spolié leurs terres, moyennant massacres et déplacements de populations forcées, avec l'appui donc de milices paramilitaires, mais également la complicité des autorités politiques. Et Henrique, qui est un jeune défenseur, il a une trentaine d'années, a décidé de reprendre ce combat et donc de s'exposer et d'interpeller les autorités, donc les différents ministres, les différents députés, pour que sa communauté on reconnaisse le droit à sa communauté de revenir sur ses terres et de les exploiter.
Oui.
Il s'avère que donc en faisant ça, en se battant pour reconnaître ce droit foncier, Henrique s'est exposé à de lourdes menaces, à plusieurs tentatives d'assassinat. Il y a des camarades à lui qui se sont fait tout simplement assassiner par des milices paramilitaires ou des mercenaires qui sont payés par ces entrepreneurs. Et donc, dans le cadre de notre fonds d'urgence, on a lancé une procédure pour le faire venir en France afin qu'il demande l'asile en France. Cette demande, elle a émané d'Amnesty International qui a pris contact avec nous et qui nous a mis donc en lien avec Enrique afin donc qu'on ait connaissance de son cas, qu'on voit ce que AEDH pouvait apporter comme réponse à cette situation. Alors effectivement, la demande d'asile ou l'appui à l'exil, en tout cas des défenseurs, c'est une procédure qui est assez exceptionnelle, même au niveau d'Agir Ensemble. On essaye d'abord de trouver des solutions localement, mais le cas d'Enrique est assez complexe. Il a déjà bénéficié de plusieurs relocalisations. Il a bénéficié aussi de mesures de sécurité en Colombie qui sont avérées pas du tout viables. Et donc, il continue à être menacé. Donc, la seule solution était, en tout cas, de le faire sortir de Colombie.
Parce que sa vie était en danger.
Parce que sa vie et celle de sa famille étaient en danger. Et donc, AEDH s'est porté comme organisation hôte pour l'accueillir en France et faire toutes les démarches. Donc, on a contacté...
L'aider à faire les démarches auprès de consulat ou de l'ambassade.
Effectivement, oui. Donc, on a pris contact...
Auprès de l'OFPRA ici, en France, etc.
Exactement, oui. Donc la demande d'asile, c'est un processus assez long, oui. Qui n'est pas forcément, qui n'aboutit pas forcément à une réponse favorable. Donc AEDH a pris contact avec l'ambassade de France à Bogota, a appuyé.
Est-ce que l'ambassade a été aidante sur ce
très
sujet?
Très aidante, oui. Donc l'ambassade de France a été très réactive. On a mis en place un dossier pour une demande de visa de type D, donc qui est un visa de long séjour. Pour une demande d'asile, donc en passant par l'ambassade qui a donc reçu Enrique et sa compagne, qui a fait un entretien avec eux, qui a ensuite envoyé la demande de visa auprès de Paris, parce que c'est le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur qui ont le dernier mot dans ces demandes. Et effectivement, l'ambassade à ce niveau-là a été un soutien assez important, et également l'ambassadeur des droits humains. En français, qui nous a aussi beaucoup appuyé dans cette...
Ambassadeur des droits humains.
Qui est en fait un ambassadeur des droits humains qui est donc au ministère des Affaires étrangères.
Voilà.
François Croquette. Oui. Et donc avec qui AEDH est en lien et qui D'accord. a également appuyé la demande d'Enrique. Et donc on a finalement eu les deux visas. Et donc Enrique est arrivé en France courant octobre. Et AEDH continue à le suivre régulièrement, à l'accompagner dans ses démarches.
Il est là avec sa famille.
Avec sa femme.
Voilà. Mais alors là, vous l'extrayez, vous l'aidez en quelque sorte à se sortir parce que sa vie est menacée d'une situation évidemment très, très difficile. Mais d'une certaine manière, il abandonne le terrain.
Alors c'est pour ça qu'effectivement, l'aide à l'exil, c'est en dernier recours qu'on le fait. Après, Enrique continue son combat à distance, entre guillemets.
De loin, oui, bien sûr.
Et effectivement, AEDH continue aussi à l'appuyer, notamment, et à appuyer en fait en termes de plaidoyer. Pour information, il y a une procédure judiciaire qui est en cours envers ces grands entrepreneurs, et AEDH... appuyer le témoignage d'Enrique en tant qu'organisation internationale, en tant qu'organisation qui a reconnu les dangers auxquels il faisait face et avec les preuves qu'on a, ça peut aussi aider sur le terrain en Colombie à ce que des procédures judiciaires soient mises en place, à ce qu'un plaidoyer soit soutenu. Et de toute façon, la communauté continue à lutter. Enrique, pour l'instant, effectivement... Là, on est dans les démarches de demande d'asile, donc on a d'autres préoccupations à l'heure actuelle, mais on continue à soutenir les combats des défenseurs sur le terrain.
Voilà, donc voilà, pas à l'autre bout du monde, mais pas loin, de l'autre côté de l'Atlantique, un autre exemple qui est lié aussi à la propriété de la terre. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire du monde... l'histoire de l'homme sur cette terre, eh bien tout n'est que spoliation, que guerre, qu'occupation de territoire, que privatisation de sols laissés en jachère, laissés en communes libres. par des envahisseurs, je pense tout simplement, par exemple, aux Indiens d'Amérique. Hein. Voilà, c'est l'exemple le plus criant qui nous vienne à l'esprit. Alors, il y a ce terrain, bien sûr, de l'exploitation foncière et de la propriété. Il y a aussi d'autres terrains, et je pense en particulier aux droits des femmes, ici. Et peut-être que vous... Régine Perraudin pouvait nous donner un exemple.
Ce que je peux dire par rapport aux droits des femmes, c'est que les femmes qui sont militantes se font souvent agresser.
Oui.
Elles ne sont pas forcément toujours reconnues comme membres actifs d'une défense, d'une cause, et notamment celle des femmes ou celle des jeunes. Et elles subissent des agressions, mais des agressions sexuelles. Et le viol, c'est une arme de guerre extraordinaire. Parce qu'une fois violées, ces femmes, elles ne sont plus reconnues chez elles. Elles ne sont plus acceptées par leur mari ou par leur famille. Et là, c'est un double combat pour les remettre en piste et les aider à se reconstruire, déjà après un viol. Et puis,
est-ce que vous êtes arrivé d'intervenir sur ce terrain?
Alors, on est arrivé, pas directement au Secours Populaire, mais via AEDH, à aider effectivement des femmes qui ont subi ces violences sexuelles au Kivu. Et voilà, on a aidé à les extraire de leur milieu pour pouvoir les aider à être soignées et à être prises en charge psychologiquement pour qu'elles se reconstruisent. Et ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde le site du ministère des Affaires étrangères, diplomatie.gouv.fr, c'est une zone rouge. C'est une zone dans laquelle les Français, en tous les cas, ne peuvent pas aller.
On déconseille formellement d'aller.
Plus que déconseiller, c'est même...
Ça ne peut pas être interdit.
Ça ne peut pas être interdit, sauf qu'on
liberté de mouvement,
rentrer. On ne peut pas avoir
pas de protection
visa.
Diplomatique.
Voilà.
On
n'a même chercher. Pas de couverture d'assurance de rapatriement, par exemple, en cas de maladie. En ce moment, ils sont plus frappés par le virus Ebola. Donc ça limite encore. Dans cette région du Kivu, ils sont quand même... ils ont toutes les misères du monde, si je puis dire, hein. Les Ebola, les volcans, les inondations, les milices armées. Donc c'est vrai que les conditions de sécurité sont loin d'être faciles, quoi. Et...
Au secours, un peu de musique. Voilà, vous êtes dans Human avec nos amis défenseurs, des défenseurs de droits humains. que son vicaire Batundi Anguille, de représentant des Pygmées, Magali Bichard, qui nous vient de Agir ensemble pour les droits de l'homme, et Régine Perraudin du Secours populaire français. Alors, Magali Bichard, d'autres exemples peut-être de la défense de ces défenseurs ailleurs qu'en Amérique du Sud et en Afrique. Vous avez un exemple ?
Oui, bah effectivement, on a eu un exemple cette année d'ailleurs. Alors, faut rappeler que le fonds d'urgence, nous, on travaille énormément avec des partenaires de terrain qui nous permettent donc de vérifier les informations, de s'assurer que ce soit pas des cas de fraude et que ça respecte les critères, donc les trois critères qui sont être un défenseur des droits, être menacé en raison de ses activités de défenseur et que la demande soit urgente. Et donc, au début de l'année, on a été contacté par un de nos partenaires français qui travaille donc en Europe orientale, zone sur laquelle AEDH n'a pas de partenaire de terrain, et qui nous a fait une demande concernant un prisonnier politique en Azerbaïdjan, qui a donc été arrêté sans que sa famille soit avertie, torturée, puis condamné à 5 ans de prison sans vraiment de procès équitable, etc.
Qu'est-ce qu'on lui reprochait ?
On lui reprochait ses activités. En fait, il faisait partie d'une organisation de la jeunesse, société civile, qui dénonçait en fait la corruption et de l'État. Voilà, vraiment un militant assez jeune et qui a en fait été arrêté comme beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Je ne pourrais pas donner les chiffres parce que je ne suis pas experte du pays. Mais voilà, c'est des gens qui gênent en fait, qui dénoncent et qui gênent. Et donc ce jeune homme a été emprisonné en 2016. Et donc les conditions de détention en Azerbaïdjan, si la famille ne peut pas subvenir aux besoins en amenant de la nourriture régulièrement, en amenant des vêtements, en amenant des médicaments, les prisonniers tout simplement décèdent en raison des conditions de détention.
Et donc votre aide ici pour ce garçon, Elchin, alors les noms ont été changés par sécurité bien sûr, votre aide va consister en quoi ?
Alors là, notre aide, donc elle est un peu plus particulière, effectivement, c'est une aide de subsistance. Donc c'est-à-dire que pendant 6 mois, on a envoyé une certaine somme d'argent permettant de couvrir donc l'alimentation. On l'a envoyé l'argent à la famille d'Elchin pour qu'ils puissent acheter de la nourriture, pour qu'ils puissent acheter des médicaments, qu'ils puissent aussi se payer le transport entre chez eux et la prison, puisque les prisons sont pas dans les villes, donc il faut quand même utiliser des bus, ça revient cher, notamment vu qu'ils y vont 2 à 3 fois par semaine. Et donc on a envoyé de quoi subvenir à ses besoins, alors c'est de la survie, hein, mais au moins qu'ils ne décèdent pas en prison pendant 6 mois.
D'accord.
Voilà.
Comment est-ce que vous arrivez, les uns et les autres, j'interroge aussi bien Agir ensemble pour les droits de l'homme que le Secours populaire français, pour réunir ces fonds. Vous avez des fonds qui sont spécialement affectés à cette activité-là, ou ça rentre dans le pot commun ? Alors, pour le Secours populaire français, vous êtes une grosse organisation. Je crois que vous avez des dizaines de milliers de volontaires sur le territoire français, que votre chiffre d'affaires, si l'on peut parler de chiffre d'affaires...
Pas vraiment.
Oui, mais enfin, il faut bien... c'est une entreprise, d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a un budget. Il y a un budget, on paye des gens. Vous êtes dans les 100 millions d'euros, quelque chose comme ça. C'est très important.
Effectivement, le Secours populaire, c'est une association nationale dont le budget voisine les 100 millions d'euros.
Oui.
Pour notre travail avec le FDAPI au Kivu, on a, c'est la Fédération du Rhône, qui est une association qui dépend de l'Association nationale du Secours populaire.
Oui.
Nous, on a un budget de l'ordre de 1,5 million, 1,6 million. Et rien que sur le Rhône, on est à peu près 2000 bénévoles.
D'accord.
Donc, moi, je suis bénévole. Il y a 8 salariés, mais on est 2000 bénévoles sur le Rhône. Et on vit pour l'essentiel de dons et d'initiatives pour récolter des fonds. Ça peut être une braderie, ça peut être aller faire des paquets de cadeaux au moment de Noël. C'est tout est bon, effectivement, pour recueillir des fonds qui nous permettent effectivement d'aider la population démunie en France et pour partie.
D'avoir des actions également internationales.
Un des objectifs du congrès de l'association qui vient de se tenir, c'est de mettre 20% de notre budget pour la solidarité internationale.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Pour 2020, c'est notre objectif. Donc on va essayer.
Ça veut dire que d'une certaine manière,
les besoins sont tellement grands que.
Bien sûr, les besoins sont immenses, mais ça veut dire aussi d'une certaine manière que le Secours populaire français, organisation traditionnellement française centrée sur la France, s'ouvre petit à petit aussi à l'international.
Veut élargir son action son champ à l'international. D'action. Oui.
D'accord. Et alors, du point de vue de d'agir ensemble pour les droits de l'homme, qu'en est-il de ce fonds d'urgence dont je crois vous fêtez un anniversaire ces temps-ci?
Oui, c'est ça. Donc, alors, contrairement au Secours populaire, Agir ensemble, c'est une petite organisation qui n'est pas donc nationale. On est 5 salariés, une équipe opérationnelle composée de volontaires, de stagiaires et de bénévoles qui avoisinent au maximum les 15-20. Effectivement, on n'a pas les mêmes fonds. Le fonds d'urgence, tout ce qui est dans le fonds d'urgence est dédié aux mécanismes de protection. Ce fonds d'urgence, il est alimenté à la fois par les dons des adhérents et par des dons de certaines fondations nationales qui soutiennent nos activités depuis plusieurs années maintenant. On avoisine les 20 000 euros par an.
D'accord.
Donc, voilà.
D'accord. Donc, il y a l'argent, mais il y a aussi, la technologie, la communication, le rôle que vous pouvez jouer pour relayer, pour faire relayer les informations par d'autres que vous-même, la capacité à se mettre en rapport avec le réseau consulaire français, etc., etc. Il y a que l'argent, mais il n'y a pas que l'argent.
Non.
Pour asseoir la défense des défenseurs de l'homme. Bon, on a commencé par vous, Vicard, et on va terminer aussi avec vous.
Merci.
Comment est-ce qu'on peut amener, non pas une conclusion, parce que le sujet est inépuisable.
Ouais.
On aurait pu aussi évoquer, par exemple, la défense des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour boucler ce début d'émission sur la défense des défenseurs, on en fera sûrement d'autres, Vicard.
Oui, en fait, pour nous, par rapport aux lanceurs d'alerte, nous avons mis en place une approche de formation de parajuristes. Les parajuristes, ce sont des leaders de communautés, des jeunes appartenant à la communauté que nous identifions et qui bénéficient des formations qui sont animées par les juristes de formation, parce que ce sont juste les membres de communauté, mais des formations beaucoup plus qui portent aussi les techniques de documentation ou de monitoring des violations des droits humains, les compétences des juridictions, des différentes juridictions, les cours et tribunaux, les voies de recours, c'est-à-dire il y a un jugement, comment est-ce qu'il faut procéder pour interjeter appel, pour s'opposer au jugement, les techniques pour accompagner les victimes des violations des droits humains. Et pour le Nord Kivu, avec l'appui de Agir Ensemble pour les droits de l'homme, nous avons réussi à former 24 parajuristes appartenant à la communauté autochtone pygmée, mais parmi aussi il y a de nos pygmées mais qui travaillent au sein de nos antennes, parce que FDAPID a 16 antennes sur l'ensemble de la province. Et là, lorsqu'il y a tout cas de violation des droits humains, il faut la documentation et il procède à l'alerte précoce. Ici, je voulais parler d'un cas d'un pygmé qui a été assassiné.
Oui.
Il était torturé par un militaire le 26 mars 2016. Et grâce aux parajuristes qui étaient déjà formés et qui étaient au sein de la communauté, ils avaient alerté. Et aussitôt que nous, on avait reçu l'alerte, on avait directement déclenché le processus de plaidoyer pour exiger à ce que l'auteur de ces meurtres soit arrêté.
Est-ce que ça a eu un résultat?
Oui, ça a eu un résultat parce que depuis 2016, l'auteur de ces meurtres est en prison et on n'a pas tourné la pouce. Nous avons continué à accompagner le processus à travers des avocats. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre le procès parce que les témoins ont été... Il y a eu confrontation des témoins, il y a eu des confrontations des parties, c'est-à-dire la partie civile et l'incriminé. Et donc, c'est grâce au travail de ces parajuristes que, parce qu'il y avait déjà au niveau local, sur le terrain, des arrangements où on voulait donner du sucre, des sels, de la farine, une chèvre à la famille victime pour que le dossier passe inaperçu. Mais grâce à ces dénonciations, aujourd'hui, l'auteur est en prison et ça fait à ce qu'il y ait une correction. C'est-à-dire, toute personne qui pouvait poser un tel acte, il va se dire, mais non, si je pose tel acte, je vais me retrouver devant la justice et ça sera soit une condamnation. Et donc, ça corrige et ça fait à ce qu'il y ait moins de violations des droits de l'homme.
Voilà, et des corrections comme ça, certainement, il nous en faut beaucoup et beaucoup pour lutter efficacement contre les nombreuses injustices de ce monde. Ouais. Merci à vous, Vicar Batundi Angui. Merci à vous, Magali Bichard, et merci à vous, Régine Perraudin. Un peu de pygmée, et puis voilà, et puis l'émission est terminée.
Radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.